Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, au moins 2 semaines de plus, puisque le grand MAGA et les ayatollahs ont remis leurs bombes et leurs missiles dans leurs culottes pour laisser passer le pétrole et pour que le monde puisse se remettre à carburer plein pot, comme si 30 degrés à 8 avril, ça suffisait pas. Bon, ce soir, chers auditeurs, chères auditrices, vous aviez...
On va pas parler du détroit d'Ormuz ?
Non. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien en direct dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM 93.1 avec François Delaunay, moi-même, donc, et mon équipe de gladiateurs de l'écologie. Avec Ben Kramer, notre Mirmillon qui revient tout droit de la rade de Brest, et puis nos deux équipiers de la Gen Z, Pauline Fricot et Théo Capitaine. Et bien sûr, avec nos deux invités, alors ce soir, Philippe Grandcola, écologue du CNRS. Bon, je fais court, hein, Philippe, vous présenterez toute l'étendue de vos titres plus tard. Et puis Myriam Marzouki, metteuse en scène et directrice de la compagnie du dernier soir. C'est bien ça, Myriam ?
Tout à fait, oui.
Parfait. Alors, qu'est-ce qu'un écologue et un professionnel du théâtre, du spectacle vivant peuvent avoir à faire ensemble ? Eh bien, justement, c'est toute l'originalité de cette émission, puisqu'on va ouvrir le bal de notre cycle radiophonique, La Voix de la Biodiversité. Alors justement, on a demandé à Philippe de se livrer un exercice un peu particulier, qui va être de nous raconter la biodiversité, non pas avec son discours de scientifique comme d'habitude, mais avec... Avec un discours de conteur et voir ce que peut éveiller les contes de la biodiversité, les contes réels de cette fantastique biodiversité auprès d'une artiste, auprès d'une metteuse en scène, une spécialiste du spectacle vivant, donc Myriam. Elle va nous dire comment elle peut réagir à ça, est-ce que éventuellement on pourrait en faire quelque chose d'artistique, de théâtral. Où, alors aujourd'hui c'est plutôt le théâtre, mais bon, dans les prochaines émissions on aura aussi des plasticiens, on aura des chanteurs, des romanciers, donc effectivement on va pouvoir développer. Mais bon, pour commencer, place à la chronique. Alors on a demandé à Pauline d'ouvrir le bal, et pour la première fois elle va faire une chronique en direct face à l'auteur.
Bonjour, alors oui, je vais profiter que vous soyez parmi nous, Philippe Grandcola, pour parler du livre que vous venez tout juste de publier aux éditions du Faubourg, qui s'appelle « Loi Duplomb, le débat confisqué ». Alors pour la petite piqûre de rappel, la loi Duplomb c'est quoi ? C'est le texte qui a été adopté en juillet dernier, qui vise, je cite, « à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur » et qui a notamment permis de simplifier les procédures pour construire des élevages intensifs. Mais il y a une chose que la loi n'a pas réussi à faire, ou du moins pas encore, c'est la réintroduction d'un pesticide interdit, l'acétamipride, puisque l'article a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Alors Philippe Grandcola, en tant que scientifique, vous avez été particulièrement mobilisé l'été dernier pour essayer d'alerter sur les dangers que représentait cette loi. Et dans ce livre, vous retracez donc ce que vous appelez par un débat confisqué. Vous évoquez un débat confisqué d'abord sur la forme, puisque la proposition de loi, très controversée dès le départ, a été volontairement soustraite au débat parlementaire classique pour être directement envoyée en commission mixte paritaire qui était favorable au texte. Mais ce n'est pas tout. Vous expliquez aussi que le débat a été confisqué sur le fond, puisque de nombreuses informations trompeuses ont été relayées par les partisans de la loi, qui ont permis de semer le doute au sein de l'opinion publique. Vous appliquez à démonter, point par point, 8 fake news qui ont été largement relayées. Par exemple, on a pu entendre que l'acétamipride n'était pas dangereux, puisqu'on l'utilisait pour les colis antipuces, que les retenues d'eau permettraient d'éviter le gaspillage de la ressource, ou bien que l'agrandissement des élevages serait une nécessité économique incontournable. Tout ça c'est fait, vous le dénoncez en menant une campagne de stigmatisation et de décrédibilisation d'institutions publiques comme l'ANSES ou l'Office français de la biodiversité, qui apportent pourtant un éclairage scientifique au débat démocratique. En parallèle, vous mettez en exergue ce qu'on a moins entendu dans les échanges, par exemple que cette loi, qui je le rappelle entend lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, ne concerne en réalité que 13% d'entre eux. mais aussi que les économies que l'on croit faire en mettant sous perfusion le système agricole conventionnel, on le paie ailleurs, que ce soit via les coûts de dépollution de l'eau contaminée aux nitrates ou aux pesticides, ou à travers la hausse des cotisations à la mutuelle pour prendre en charge l'explosion des maladies, notamment liées aux pesticides. Malheureusement, si je peux dire, ce livre est d'autant plus important à se procurer que le sujet est encore d'actualité, puisque le sénateur Laurent Duplomb a remis ça en déposant une nouvelle version de son texte en début d'année pour essayer, une fois pour toutes, de réintroduire l'acétamipride. Et ce, malgré le levé de bouclier inédit qu'avait suscité son premier projet de loi. Le livre est accessible à tous, il est court, 160 pages, très pédagogique et permet aussi de comprendre un phénomène beaucoup plus large qu'on vit globalement en ce moment, celui du déni de science et des stratégies délétères mises en œuvre par celles et ceux qui espèrent gagner du temps. Et si vous voulez d'autres recommandations de lecture, n'hésitez pas à suivre le Festival du Livre et de la Presse d'écologie sur les réseaux sociaux. On s'appelle Felipe-Asso sur Instagram. Merci.
Eh bien merci Pauline. Bon, eh ben écoute, on va pas ouvrir le débat tout de suite parce que c'est là on fait pas de la biodiversité politique pour ce coup-ci, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire et notamment ça je vais pas pouvoir m'en empêcher qu'il n'y a pas que la santé humaine qui est menacée dans cette affaire et que ça c'est la grande oubliée souvent de ce débat sur la loi Duplomb, c'est que les vrais dangers c'est aussi de casser la biodiversité, mais bon, on laissera Philippe nous en parler dans le cours de l'émission. Oui, Ben, tu voulais dire.
Il me semble, puisque je suis aussi quand même un journaliste et j'aime bien l'accroche actu, est-ce qu'il n'y a pas un sommet sur One Health en ce moment ?
Si, mais ça, j'en viendrai dans ma chronique sur l'agenda de Roquelaure. Bon, mais en attendant, on va lancer Théo et sa bonne nouvelle, ce qui te permettra, Ben, de finir ta chronique.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous, comme d'habitude c'est l'heure de notre bonne nouvelle de la semaine parce que ça fait du bien. Et ce soir, pas de sac à dos mais des palmes et un tuba puisqu'on va parler des océans. Alors on le sait, ces océans ils sont particulièrement sensibles aux questions climatiques et environnementales, on avait déjà parlé dans cette chronique de la pollution plastique mais on pourrait aussi parler de la surpêche, de l'exploitation des fonds marins, de leur acidification. Bref, ce ne sont pas les problèmes qui manquent et pourtant ils sont essentiels à notre survie. D'abord parce que 50% de l'oxygène qu'on respire est généré par les océans mais aussi parce que c'est le puits de carbone le plus important de notre planète, sans compter toutes les populations qui vivent grâce aux ressources de la mer. Alors évidemment, il apparaît de plus en plus nécessaire de les protéger, et c'est bien de ça qu'on va parler ce soir. Parce que depuis 2025, les aires marines protégées se multiplient à vitesse grand V dans le monde entier. D'ailleurs, en 2025, justement, la France a créé en Polynésie la plus grande aire marine protégée du monde, mais c'est loin d'être la seule. On peut aussi citer le Chili, qui vient d'en créer une nouvelle, les Philippines, l'Arabie Saoudite, ou encore la République Dominicaine, qui ont aussi porter des projets similaires. Et toutes ces aires, créées depuis un an et demi, ça représente 5,4 millions de kilomètres carrés nouvellement protégés dans le monde, ce qui est tout simplement gigantesque. A titre de comparaison, l'Union Européenne, c'est 4,1 millions de kilomètres carrés, ce qui est donc plus petit. Et ça, c'est seulement depuis un an et demi, mais au total, on compte aujourd'hui sur l'ensemble du globe 36 millions de kilomètres carrés d'aires marines protégées, soit environ 10% des océans. Alors, il y a quand même une nuance importante à souligner. En réalité, sur ces 36 millions de kilomètres carrés, seule une petite partie, environ 12 millions de kilomètres carrés, sont strictement ou effectivement protégés. D'ailleurs, c'est une critique qui est régulièrement émise à l'encontre de la France et d'autres pays, par les ONG environnementales. C'est le fait que de nombreuses aires marines protégées soient en réalité toujours ouvertes aux chalutiers géants et à la pêche intensive. Toujours est-il que sur ces 5 millions de kilomètres carrés ajoutés depuis 2025, 2 millions sont strictement protégés, ce qui est loin d'être négligeable, puisque ça représente 4 fois la superficie de la France métropolitaine. C'est une source d'espoir, évidemment, pour les océans et leur biodiversité, parce que, comme je l'ai dit, on note une réelle accélération depuis 2 ans de ces protections, et ça se traduit très concrètement par le retour de certaines espèces dans des zones où elles avaient disparu, mais aussi par sa préservation à capter nos émissions de CO2, et ça, c'est quand même une super nouvelle. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.
Eh bien, merci Théo. Oui, alors effectivement, il y a quand même à dire sur le contenu de ces protections d'air marine, mais on en a déjà parlé dans les arènes de l'écologie, mais on en reparlera parce que c'est un sujet fondamental. Mais la question du moment, c'est bien sûr la chronique de Ben, qui nous revient tout droit de la rade de Brest.
Moi, je vais vous parler des Nations Unies. Enfin, Il faut le dire vite, hein, parce que le mot nation unie, déjà...
Oui, on est sûr, mais unie...
Bon, alors, il y a quand même quelque chose qui se passe dans les couloirs de l'ONU, entre New York et Genève.
Donc depuis Brest, ça a réussi à voir jusqu'à New York.
Incroyable.
C'était vraiment trop fort.
Non, mais je ne voulais pas vous gonfler avec les sous-marins.
Bon, vas-y, allez.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement 5 candidats en lice pour le poste, le futur poste, pour le successeur de Guterres, c'est-à-dire le secrétaire général des Nations Unies.
Et alors ?
Moi, je croyais que c'était une blague du 1er avril, donc je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais si, il y a cinq prétendants qui sont sur le starting block, dans le starting block. Et vous allez voir que c'est intéressant en soi. Parce qu'au-delà de la bureaucratie du machin, comme disait De Gaulle, vous avez quand même, parmi les candidats les plus sérieux, il y a Raphaël Grossi.
Et alors ?
Qui est le secrétaire général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, que tout le monde connaît,
oui,
et qui est quand même très préoccupé en ce moment de ce qui se passe, parce que l'uranium peut être de plus en plus enrichi, comme vous savez, et ça c'est supposé passer quand même par trou de la raquette de l'AIEA. L'autre, c'est Michel Bachelet. Tu connais peut-être François, Michel Bachelet, ça te dit rien ? Non ?
Non.
La présidente, elle a été longtemps présidente du Chili.
Mais oui, donc je confondais avec les Corons, mais c'est une autre histoire.
Et qui est soutenue, elle, par notamment en Amérique latine, par le Chili, le Brésil. Et le Mexique, je crois.
Je croyais que le Chili était passé un peu à droite.
Oui, non, mais ça ne change rien, si tu veux. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'au sein même des Nations Unies, il y a des lois non écrites. Et dans ces lois non écrites, c'est supposé, par exemple, avoir une rotation en termes géographiques. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas beaucoup d'Européens en lice. Le troisième sur la liste, c'est Macky Sall. Lui, c'est pour le Sénégal.
Le Sénégal, oui.
Ouais, lui, c'est pour l'Afrique. Et il y a encore une autre dame qui s'occupe de la CNUSED. Alors, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais c'est quand même important au sein des Nations Unies. C'est le UNCTAD en anglais. C'est l'agent des Nations Unies pour le commerce extérieur, le commerce tout court, d'ailleurs. Et elle s'appelle Rebecca Greenspan, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Mais elle se présente aussi, et il y a en plus...
Mais c'est qui cette Rebecca Greenspan ?
Elle est quand même la chef de l'Agence des Nations Unies sur le commerce.
D'accord.
La CNUSED. Non, je sais que tu essaies de me coincer.
Mais j'attends le dernier,
c'est
quintet plus, quand même.
Virginia Gamba,
ouais.
Qui elle-même est argentine, donc tu vois ça tourne quand même pas mal autour de cette région du monde. Et elle a été responsable de tout ce qui est la protection des enfants dans les conflits armés. Elle a été représentante d'ailleurs du secrétaire général sur tout ce qui était désarmement. Et elle fait partie aussi non seulement des prétendants, mais en même temps, elle est une spécialiste de tout ce qui serait aussi la reconversion de certaines institutions militaires vers le civil.
Est-ce que
tu as retenu 5 ?
Ouais, j'en ai retenu 5. Alors, le plus écologiste dans cette affaire, puisque si on doit voter, si on nous appelle pour voter...
C'est vrai, ça serait probablement soit le Grossi de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
D'accord. Donc c'est ton candidat.
On peut considérer que c'est... Oui, ça pourrait être mon candidat, absolument. Non, mon candidat, ce serait beaucoup plus celle qui s'occupe de la reconversion et de civiliser les armées.
D'accord.
Et de s'occuper de la protection des enfants dans les conflits armés. Ça, ce serait plutôt mon candidat.
Voilà, ta chouchoute.
Mais c'est intéressant parce que c'est un débat qui n'est pas posé sur la place publique, mais qui est quand même un vrai débat.
Mais c'est vrai que l'actualité mondiale est un petit peu préoccupée par autre chose, mais bon...
Ce que je vous ai pas dit...
Allez, fais vite, parce que tu ne me laisses que 30 secondes pour ma chronique.
C'est terrible, c'est que ça serait la première fois en 80 ans qu'une femme soit à la tête des Nations Unies.
Bah ça, ça, de toute manière, ce serait une bonne nouvelle.
T'as vu la chute ?
Alors, bravo. Moi, je crois que si c'est le cas, Théo va te piquer le sujet pour sa chronique. Alors, tu parlais justement de One Health Summit à Lyon. Alors, on en avait très rapidement parlé il y a quelques temps. Alors, c'est un sujet... Une seule santé, c'est-à-dire tous les êtres vivants, la santé de l'ensemble du vivant, ça nous ramène carrément à la biodiversité, mais c'est un sujet beaucoup trop vaste pour qu'on l'aborde ce soir. Et puis de toute façon, dans les arènes de l'écologie, on a dit qu'on ne courait pas après l'actualité, soit on la précède, soit on traitera à tête reposée ce sujet-là pour débriefer quand on en saura un petit peu plus. Mais bon, je crois qu'on... Alors, sur l'agenda de Recolor, alors Recolor, je le rappelle, ce n'est pas qu'une marque de cassoulet, c'est aussi le nom de l'hôtel particulier qui abrite le ministère de la Transition écologique. Alors, bon, comme d'habitude, c'est un peu court.
C'était Barbu aux dernières nouvelles.
Oui, c'est Monique Barbu, oui. Alors, c'est vrai qu'elle, je crois, la plus discrète de nos ministres, ce qu'on regrette un peu, parce que, bon, on n'a pas grand-chose à raconter, donc je rame comme un malade dans cette chronique depuis un certain temps. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose cette semaine. Bon, elle voit ses copines de ses anciennes ministres, etc. Qu'est-ce que j'ai pu repérer d'un petit peu neuf ? Une réunion préparatoire du G7 environnement autour de l'initiative Nature and People Finance Alliance.
Oui, ça c'est intéressant, parce que c'est la première fois que le G7 s'occupe vraiment de l'environnement.
Bon, écoute, c'est parfait. Alors, je ne sais pas si tu nous en feras
forcément.
Le début de ta chronique de la semaine prochaine, mais bon, voilà, on va passer aux choses sérieuses, on va rentrer dans le moment particulier de notre émission sur la voie de la biodiversité, et on va céder la parole... avec une musique d'ambiance, une musique, un paysage sonore de Nicolas Perrin, que naturellement à la régie on va pas tarder à nous envoyer. Je ne peux pas vous indiquer le bouton, les gars, je ne le connais pas.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
L'écologie, nos auditeurs vous écoutent, la parole est à la biodiversité.
Alors la biodiversité tropicale, moi je l'ai étudiée, je l'ai visitée, je l'ai côtoyée il y a quelques décennies en Guyane française, dans un petit morceau d'Amazonie. Et ça a été la rencontre de ma vie, puisque je la côtoyais déjà dans le milieu naturel en France métropolitaine. Et là, j'ai vu chaque jour quelque chose de très différent, une forêt qui était présumée vierge, comme on a tort de l'appeler, et dans laquelle on trouvait ici ou là, y compris dans des endroits très loin des villes actuelles, des traces d'occupation par les peuples amérindiens. une forêt qui est très discrète, à la fois dans laquelle on se déplace, dans laquelle on entend le chant des insectes, des oiseaux en permanence, y compris en plein milieu de la nuit, mais dans laquelle on a bien du mal à voir finalement des animaux vivants, parce que dans cette forêt tropicale, il y a un nombre d'espèces incroyables, mais très peu d'individus, très distants les uns des autres. Donc ça a été aussi un émoi, une peur pour moi de ne pas être capable finalement d'étudier, de regarder ce que je souhaitais étudier, c'est-à-dire les insectes qui vivent dans cette forêt et que je n'arrivais pas à trouver dans un premier temps ces insectes. Et ils sont finalement très discrets, hein. On ne peut pas s'imaginer à quel point on voit mal les insectes dans une forêt tropicale. Quand on est dans une prairie en France ou dans une forêt, on est environné pendant l'été par toute une série d'organismes. Quand on est en forêt tropicale, on les entend, mais on ne les voit pas vraiment. Et puis petit à petit, on les apprivoise, c'est-à-dire que jour après jour, on essaye de les voir, on découvre leur diversité, on se rend compte que on entend tout d'un coup le chant des formicaridés, ces oiseaux qui chassent les insectes qui sont soulevés par les nappes de fourmis légionnaires. Alors on se dirige dans cette direction et puis on va voir le sol qui est recouvert par des millions de fourmis. Et puis de ces millions de fourmis arrivent à surnager quelques insectes qui s'échappent en courant, en volant, qui sont attrapés, qui sont gobés au passage par des mouches parasites ou par les oiseaux formicaridés. Puis on va un petit peu plus loin et là on va être bloqué dans notre progression par ce qu'on appelle des petits marécages, des pinotières, avec des palmiers dans lesquels il y a beaucoup d'eau et quelques plantes et encore d'autres insectes et puis bien sûr des petits reptiles. Et finalement, on doit aussi apprivoiser cette forêt durant la nuit, parce que le jour et la nuit dans une forêt tropicale, c'est très différent. Et la nuit, on fait connaissance avec beaucoup d'organismes très discrets, y compris avec les félins, les jaguars, les chatigues, les ocelots, qui n'ont qu'une envie, c'est de savoir ce que l'on fait là. Alors j'ai eu la chance, moi, de côtoyer pendant mes premières semaines de terrain une collègue des États-Unis d'Amérique qui avait travaillé sur le jaguar au Pérou pendant une année entière durant la nuit. Elle m'a appris finalement à repérer ces deux grands yeux qui vous fixent à quelques dizaines de mètres de distance à travers les arbres, qui sont très curieux, hein, comme un gros chat, mais qui, pour lesquels vous n'êtes rien, certainement pas une proie. Hein. Le jaguar, il ne va pas se nourrir d'une bestiole aussi grosse qu'un humain. Et là, simplement pour limiter sa curiosité, il faut apprendre à lui crier dessus. Donc, évidemment, quand on est très inquiet et très stressé de la proximité avec un tel animal pour la première fois de sa vie, qu'on voit mal, hein, et ce qui ajoute encore à l'anxiété, tout d'un coup, ben, on apprend à crier un grand coup, et puis on l'entend qui saute en arrière et qui s'éloigne. Voilà, donc des apprentissages comme ça, c'est une découverte, c'est le contact finalement avec une nature qu'on n'avait plus appris à côtoyer, parce que celle que l'on voit tous les jours dans sa vie quotidienne, dans son lieu de vie de naissance, on ne la voit plus, hein, on la côtoie, pour nous c'est quelque chose de naturel, d'habituel, de quotidien, et là tout d'un coup, on fait un saut de quelques milliers de kilomètres, on se trouve dans une zone tropicale et on côtoie quelque chose qui, pour ma part, n'était pas mon lieu de vie. Et on découvre à quel point elle peut être différente, à quel point elle peut être fascinante. Et puis malheureusement, après, quand on change de lieu de travail, comme ça a été mon cas, par exemple, quand j'ai travaillé en forêt atlantique au Brésil, dans un grand massif forestier qui est au moins aussi grand que l'Amazonie à l'origine et dont il reste aujourd'hui que 10% de la surface, là, on passe son temps à naviguer de petits bouts de forêt en petits bouts de forêt en cherchant à voir ce que l'on voyait si facilement en Amazonie et qu'on a du mal à voir dans une forêt qui aujourd'hui est divisée en une centaine de milliers de fragments et dans lesquels la chasse, le braconnage, le fait de continuer à couper des arbres ici ou là malgré les lois fédérales, bah, tout ceci nous montre à quel point finalement notre monde est encore divisé entre des régions en Europe où nous avons saccagé la nature depuis des siècles et où finalement une nature relativement spontanée n'existe plus guère, des endroits où cette nature est faussement spontanée, où elle a vécu en compagnie des Amérindiens qui la respectaient et que nous jugeons à tort vierge, et puis enfin des endroits qui ont été de cette sorte et aujourd'hui sont profondément modifiés et se dirigent tout doucement vers un état similaire à celui que nous connaissons en Europe et en France métropolitaine.
Lequel ?
Ben finalement, un état dans lequel beaucoup d'espèces ont disparu, dans lequel finalement les équilibres naturels sont perturbés, puisqu'il n'y a plus les chaînes alimentaires. En Europe, maintenant, on a des rongeurs, des cervidés, mais on n'a plus les prédateurs. Quand les prédateurs reviennent par accident, le loup, le renard, on n'a qu'une envie, c'est de les supprimer immédiatement parce qu'on n'est plus capable d'interagir avec eux. Et puis, c'est un endroit dans lequel nos pollutions, nos activités industrielles, y compris agricoles, qui sont guère vivrières aujourd'hui, ben, ces activités finalement suppriment une grande partie de la biodiversité. Aujourd'hui, dans des paysages mixtes, on trouve à peine un quart des insectes qui restent, et on désapprend même à côtoyer des insectes au point finalement de provoquer des phobies chez nos concitoyens qui sont maintenant urbains et totalement amnésiques de l'état de la nature d'il y a encore quelques décennies, l'état de la nature de nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents.
Eh bien, merci Philippe. Donc effectivement, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace, dans ces facettes de la biodiversité et le contraste entre la biodiversité luxuriante de l'Amazonie. Mais bon, il y a d'autres bassins. On aurait pu parler du Congo, on aurait pu parler de l'Indonésie dans ces grandes écosystèmes tropicaux, mais effectivement c'est ce contraste, puis bon c'est vrai que c'est peut-être là où c'est le mieux étudié, l'Amazonie. Mais bon, je voudrais demander à Myriam, je retourne vers elle, alors que t'inspire cette biodiversité telle que Philippe l'a racontée d'une manière un petit peu pas rapide, hein, parce que c'est un vaste sujet.
Elle inspire tout de suite des images, c'est-à-dire que là, ce qu'on a entendu, à la fois c'est un récit scientifique appuyé sur des observations et une terminologie qui est celle d'un connaisseur de la nature, et pour moi, ce que j'entends, ce sont des histoires, des récits et des aventures, des événements, et finalement ces récits, ces aventures, on nous en a privés, et je dirais que par rapport au premier sujet relatif à votre livre et à cette loi du plomb, vous avez parlé de débats confisqués. Moi, il me semble qu'il y a une confiscation générale. Il y a un débat qui est confisqué, mais il y a un rapport au vivant qui est confisqué. Et ça me fait penser que dans la pièce donc, que je viens de mettre en scène, Je me souviens de la Terre, il y a un personnage qui est un scientifique et qui en vient à se mobiliser, puisque c'est le cœur de notre histoire dans la pièce, des gens qui se mobilisent et qui sont réprimés parce qu'ils se sont mobilisés, et ils se mobilisent parce que justement il a le sentiment que son travail de scientifique est totalement confisqué. Et à un moment il dit, mais de toute façon tout le monde s'en fout, on en a marre de sonner l'alerte. Et puis un des autres personnages dit, le problème, c'est pas que les scientifiques ne sonnent pas l'alarme ou l'alerte, mais c'est que nous, citoyens, on ne force pas les gouvernants à les entendre. Donc se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces alertes, de toutes ces alarmes qui sont sonnées à travers des livres, à travers des mobilisations, le travail scientifique, et comment est-ce que peut-être il est nécessaire, enfin ça a déjà commencé, mais plus que jamais il s'agit de le faire, d'unir nos forces qui sont petites par rapport à la puissance des forces de destruction et de confiscation. Comment est-ce que les scientifiques qui produisent ces récits, qui sont appuyés sur des faits, comment nous qui produisons des récits qui sont appuyés sur autre chose, sur des émotions, des imaginaires, comment est-ce que nous pouvons tenter d'opposer une résistance, et pas seulement de résister, mais en tout cas de maintenir la possibilité de raconter autre chose. Et par rapport à ce que vous dites sur tous ces événements, ces fourmis, ces insectes, ces félins, ces regards de félins, etc., je me dis que on doit pouvoir ensemble travailler à recréer un lien concret, un lien vivant au vivant. Parce qu'au fond, pour la plupart d'entre nous qui grandissons dans les villes, on a perdu ce lien vivant au vivant que effectivement la génération de nos grands-parents a eu, c'est-à-dire un lien qui était quotidien, qui était ancré dans une quotidienneté d'action, de gestes, de pratiques. Et c'est ce qui a été perdu. Donc je pense qu'il y a, et c'est la raison pour laquelle les artistes se nourrissent beaucoup de ces questions-là, un travail commun à mener. On ne travaille pas sur des choses séparées, je crois.
Eh ben parfait, Myriam. Effectivement, c'est un peu le pari de ce cycle d'émissions, c'est de croiser ces regards entre le scientifique et l'artiste. et puis aussi ceux des journalistes, parce qu'on fait quand même un constat que depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, les scientifiques comme les journalistes, j'ai le sentiment qu'on piétine à convaincre l'humanité de changer de voie. C'est pas tellement que individuellement les politiques soient sourds à tout ce qu'on raconte, mais c'est que ça fait pas écosystème, ça fait pas système, et manifestement tout ça se grossit pas, se convertir en comment dire, en politique générale et une forme d'accord. Et c'est là où on compte beaucoup sur les artistes, parce qu'on voudrait vraiment, on a ce sentiment, Philippe, je te vois opiner de la tête, mais je te passerai la parole très vite, on a le sentiment que nous, les rationnels, entre guillemets, on réussit plus, quoi.
Allègre FM 93.1.
Donc voilà, Philippe, je te laisse.
Oui, tout à fait, mais je partage ce sentiment. Je pense que pour essayer de partager la science avec des personnes très diverses au sein de la société, et pas seulement avec des collègues ou des étudiants de mon domaine, je me rends compte quelle est la difficulté parfois d'ouvrir les esprits, tout simplement. Dès qu'on parle du mot écologie, on a tout de suite un catalogage par rapport à des activités qui seraient politiques, militantes, ce qui est tout à fait honorable par ailleurs, mais où on ne fait pas le rapport à la connaissance. Et puis, il y a aussi, quand on essaye d'ouvrir les esprits, le besoin de créer la surprise, le besoin de faire un pas de côté. Et là, effectivement, les arts sont indispensables. Je pense que, voilà, autant la science peut donner raison, autant les arts peuvent donner envie. Hein. Et ça, c'est vraiment
c'est
important.
C'est une bonne formule.
Voilà, d'avoir envie de découvrir, avoir envie de faire un pas de côté et de ne pas rester dans son ornière, en pensant que du haut de sa position sociale et de sa réussite, au bout de quelques décennies, par exemple à mon âge, on pense nécessairement qu'on est méritant et que notre trajectoire nous donne raison sur nos décisions quotidiennes, ce qui peut s'avérer profondément faux. On a besoin de faire ce pas de côté, de se remettre en question et de montrer en plus que ça peut être surprenant, que ça peut être agréable, que ça peut être émouvant. Et là, les arts sont évidemment essentiels à cela, beaucoup plus que la science. Hein. La connaissance peut être parfois surprenante, mais ça reste quand même malgré tout le domaine de l'art, de mon point de vue.
Alors, Pauline, tu veux réagir ? Tu vas t'accaparer le micro.
Oui, alors bien sûr, les arts sont importants, mais je réagis quand même un petit peu par rapport à ce que tu as dit sur la nécessité de dépasser aussi, enfin, d'aller plus loin dans les discours scientifiques et journalistiques. On patinait un peu. Je trouve que la loi Duplon nous a montré que ça avait quand même fonctionné, parce que en quelques mois, l'opinion publique ne connaissait pas la loi Duplon, ne savait pas ce qu'était l'acétamipride. Et grâce à la mobilisation des scientifiques, par exemple, sur les réseaux sociaux, beaucoup de scientifiques publiaient des posts, on continue, les journalistes aussi ont repris. On a réussi à avoir 2 millions de signatures sur la pétition, c'est inédit, donc la pétition contre la loi Duplon. Donc je pense qu'il faut quand même, c'est un tout, il faut y aller collectivement. Et en plus, ajouter les arts à tout ça.
Bien sûr, mais bon, je rappelle quand même qu'on est 68 millions de Français. Même si effectivement 2 millions 100 000, je ne sais plus combien, ça fait très beaucoup, comme on dirait à l'école maternelle. Néanmoins, ça ne fait pas encore l'ensemble. Et moi, ce qui me frappe, c'est que quand on parle de contes, de récits enfants, de qu'est-ce qu'on raconte à nos enfants, on a quand même un peu tendance à raconter encore le petit chaperon rouge, des vieilles histoires qui véhiculent. Alors, Philippe, tu as une expression que j'ai entendue, des représentations culturelles un peu déviées. Quand on parle du chaperon rouge, c'est la peur du loup, c'est pour pas dire autre chose.
Et c'est pour ça que c'est intéressant, le récit, votre récit, parce qu'au fond, on apprend aussi, et il faut de la connaissance, pour démystifier tout ce qui est la menace.
Oui.
Bon, je rencontre pas des jaguars tous les jours.
Non.
Mais je sais maintenant que je ne suis pas une proie pour lui ou pour elle. Et ça, je trouve que c'est quand même...
Ça te rassure.
Et il y a l'émotion, il y a l'émotion de la rencontre, hein, de la même manière que l'émotion de la loi du plomb, je pense pour beaucoup de gens, ça a été la crainte de la pollution, qui est légitime, qui est tout à fait, qui est saine. Hein. Il est bon d'avoir peur d'être empoisonné, la crainte de la perte. Donc, quelquefois, la peur n'est pas forcément immobilisatrice, négatif. Elle peut être au contraire mobilisatrice.
Ouais.
Donc là, on retombe sur voilà, des émotions. Alors, quelquefois, effectivement, la science peut en fournir, hein. Moi, je m'y emploie. Mais le dialogue est encore plus important.
Myriam.
Oui.
Alors, que t'inspire ce débat? Alors, comment populariser? Alors, c'est vrai qu'on peut faire des pièces de théâtre, on peut les monter, donc ce qui est ton cas. Mais c'est vrai qu'il faut... c'est vrai que... L'écologie n'est pas un sujet, on va dire, forcément très très répandu dans le théâtre. Donc de ce point de vue-là, vous faites partie avec Sébastien Le Potvin, qui a écrit la pièce Je me souviens la Terre, un peu forme d'exception, quoi. Il y a Climax aussi qui continue à être joué. Vous n'êtes pas très nombreux à vous inspirer de cette thématique là.
C'est pas pour atténuer l'originalité de notre démarche, mais pour être honnête par rapport à mes camarades artistes metteurs en scène, il y a vraiment une prise en charge de plus en plus diverses et massives quand même de ces questions à travers des histoires qui ont des orientations différentes. Il y a des spectacles qui travaillent plutôt sur la question de la destruction, d'autres sur la question de la catastrophe, du catastrophisme. Nous, on l'a abordé plutôt à travers la question de la mobilisation et de la lutte. Mais pour revenir à la question initiale que tu posais, moi, par exemple, je ne dirais pas, parce que ce n'est pas le cas et parce que c'est contre-productif, que je fais un spectacle écologiste ou un spectacle de militantisme écologique. D'abord parce que ce n'est pas ce que raconte la pièce, mais aussi parce que je pense que vraiment il y a une manière de se couper de ceux à qui on a envie de parler, c'est-à-dire à tous. On a envie de parler au public, on a envie de parler à la société dans toute sa diversité, ses contradictions. Et il y a des mots qui produisent des effets de repoussoir. Ouais. Il y a des étiquettes qui d'emblée cataloguent. Et si moi on me dit on va vous programmer dans un festival écologique où vous faites un spectacle écologique, je pense que c'est le meilleur moyen de ne absolument pas se faire entendre, alors que dans notre spectacle il est question d'un certain nombre de choses dont on a parlé aujourd'hui, la peur de l'empoisonnement, la peur de voir notre terre transformée en une terre inhabitable. Mais ce que nous avons cherché, et ça a été vraiment l'endroit d'attention de Sébastien Le Potvin qui a écrit la pièce, c'est de mettre en scène, puisque donc nous on raconte une histoire, il y a des personnages, de mettre en scène des personnages qui ne sont pas d'accord entre eux, qui ne sont absolument pas là pour faire la leçon au public, hein, et pour exposer ce qui serait notre vérité à nous. Je pense qu'on ne va vraiment pas voir un film ou voir un spectacle pour en ressortir édifié sur ce qu'il faut faire ensuite, mais au contraire pour faire une expérience. Et nous, dans l'histoire qu'on raconte, il y a des personnes, donc des hommes et des femmes d'aujourd'hui, qui ont des trajectoires très différentes, qui n'ont pas du tout le même rapport à la question des ressources naturelles. Certains sont plus timorés, certains sont plus égoïstes, certains ont peur de la violence, d'autres veulent utiliser la violence, certains sont plutôt optimistes, d'autres sont beaucoup moins. Et je trouve que l'intérêt dans ce genre de propositions qu'on peut faire dans les arts, c'est que justement on va permettre la polysémie, on va pouvoir permettre une interprétation variée, on va pouvoir permettre à chacun de faire un chemin le temps du spectacle et de se dire, tiens, est-ce que moi j'aurais réagi de la même manière, est-ce que ce que dit ce personnage, ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà vécu, peut-être commencer en se disant
je me sens plutôt proche de cette figure-là, mais à la fin se dire non, mais moi j'aurais plutôt fait ce que lui a fait, et que on soit mobilisé de façon sensible, émotionnelle, et non pas recevoir un discours de sachant, de connaisseur, mais d'avoir justement ce plaisir de la fiction qui est d'être projeté dans d'autres que soi, ce qui permet de revenir à soi et après de se demander qu'est-ce que je peux faire, où j'en suis moi dans mon rapport à l'action, comment je me situe, et c'est l'endroit où l'art peut nous permettre de penser au monde et à soi-même. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses.
Oui, tout à fait. Donc, il faut, je pense que c'est l'idée de tout le monde, même si on peut, comment dire, trébucher en l'expliquant. Mais c'est vrai qu'il ne s'agit pas d'aller dispenser des leçons.
Surtout pas.
C'est le discours didactique. On a tous compris que ça ne marchait pas. Et ce n'est pas du tout ce projet-là qui est... C'est plutôt l'inverse. Mais effectivement, c'est peut-être nourrir les imaginaires par d'autres choses. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant... quelque part, on exploite tellement peu de ce monde de la biodiversité. Alors moi, gamin, j'avais cet avantage d'avoir passé mon enfance dans les bois. Donc pas perdu, hein, mais bon, j'étais en lisière et j'allais pas à la salle de sport ou ailleurs. J'allais dans les bois avec mon chien et j'en garde encore des nombreux, pas simplement des souvenirs, mais vraiment des sensations. Des sensations d'aller se perdre. Alors, c'était pas la forêt amazonienne. Alors, on voyait pas grand-chose, d'ailleurs. À l'époque, il y avait presque plus de pas de chevreuil. Les sangliers étaient très rares. J'ai dû attendre bien plus tard pour en voir, alors que j'y passais un nombre d'heures assez incalculable. Et donc, oui, il y a tellement de matière à rêver dans la nature. Je me souviens de ma première découverte de paramécie. Mais bon, c'était un plaisir de cinquième. De voir ça, c'était formidable. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est beaucoup plus partager. Philippe, je te laisse poursuivre.
Il y a deux manières de partager. Il y a le partage par la fréquentation, que tu viens de décrire. Et malheureusement, aujourd'hui, effectivement, du fait qu'on est de plus en plus urbain, pour une bonne partie de la population, du fait aussi qu'il y a des changements de mode de vie et que même des enfants en zone rurale aujourd'hui passent beaucoup moins de temps dans le milieu naturel et beaucoup plus à la maison.
Oui, parce que moi, des alertes enlèvement, on en aurait fait un nombre incalculable.
Et devant des écrans, il y a donc ce problème de fréquentation qui va en s'aggravant. Et puis, il y a aussi le problème du récit. On parlait du récit du petit chaperon rouge. Et aujourd'hui, on a besoin de nouveaux récits. On a besoin des récits... effectivement des pièces de théâtre, du cinéma ou des livres ou des films, mais on a besoin de récits qui nous sortent quelque part de ce quotidien qui aujourd'hui est déconnecté de la nature. Expliquer à des personnes qui ne fréquentent pas le milieu naturel des règles de fonctionnement ou des émotions qu'elles ne ressentent pas au quotidien ou qu'elles ne ressentent qu'à travers des écrans de cinéma,
par exemple,
c'est quelque chose qui est compliqué. C'est faire appel au virtuel. Alors on pourrait se dire que c'est un appel à l'imagination, un appel à la créativité, mais il faut quand même que ça soit un peu enraciné dans le réel. Et je pense qu'aujourd'hui, on manque de ce réel. Moi, j'ai eu l'occasion avec une étudiante en master de regarder toute une série de dessins faits par des enfants dans les écoles parisiennes auxquels on demandait en 10 minutes de représenter la nature. Et c'est terrifiant. Sur chaque dessin, on voit à peu près en moyenne deux espèces ennemies vivantes, c'est-à-dire un arbre, un chien, un arbre, un humain, un arbre, une fleur, un arbre, un oiseau. Parce qu'effectivement, au quotidien, ces enfants, quelle que soit leur famille, quelle que soit leur facilité de vie, la majeure partie du temps, ils ne voient presque rien.
Ils voient du minéral, quoi.
Voilà.
Alors, il y a peut-être un thème que je ressors de ton récit, c'est ce mythe de la forêt vierge qui s'impose et qui est véhiculé depuis des décennies, voire des siècles. Et quand on dit, alors quand, donc c'était ma spécialité, moi, la biogéographie, quand on dit aux gens que la forêt amazonienne n'est pas une forêt vierge au sens où il n'y a pas eu d'intervention de l'homme, on passe pour des négationnistes. Et d'ailleurs, il y a eu toute une époque des courants écolos pour qui ça heurtait terriblement. Et il n'y avait de salut que dans une nature totalement épargnée par l'homme. Alors que au final, je pense qu'il faudrait réconcilier l'homme et la nature. Et effectivement, les paysages qu'on connaît, on peut se lamenter en disant oh, ils ont été abîmés par l'homme. Mais bon, les gars, ça fait 15 000 ans, quoi. Donc on va pas pouvoir revenir en arrière. Et tout ce chemin, ça fait 8 000 ans que la France est travaillée entre guillemets par les agriculteurs. Un jour, on fera une émission sur le sujet, c'est l'une de mes passions. Mais je pense qu'il faut. Et par contre, on l'ignore totalement. Entre Lascaux et puis Vercingétorix, c'est le vide sidéral. Je pense que là, il y a des récits à trouver. Et effectivement, cette Amazonie habitée, ça peut faire rêver. Donc, en tout cas, moi, ça m'intéresserait.
Oui, ben l'Amazonie, en fait, elle est souvent décrite de manière naïve, c'est l'enfer vert. Hein, donc c'est un désert humain qui serait terrifiant, dangereux, alors que bon, il n'est guère plus...
T'en es revenu.
Voilà, j'en suis revenu, qu'une forêt d'Europe, où c'est le paradis. Et donc là, on a vraiment des versants un peu bibliques, hein, c'est l'enfer ou le paradis, et avec une vision très judéo-chrétienne naïve, voilà, et finalement... Aujourd'hui, l'homme occidental considère qu'il a le droit d'exploiter de manière extrême une portion congrue dans laquelle il est maître et possesseur. Et puis, à côté de ça, il y a effectivement le paradis ou l'enfer qu'on peut mettre en réserve, soit parce qu'il est inhabitable, soit parce qu'on lui concède le droit de subsister. Aujourd'hui, fort heureusement, on n'expulse plus les peuples autochtones de ces paradis ou de ces enfers, comme on veut bien les appeler. Ce qui n'a pas été le cas. Il faut se rappeler, comme tu le disais, que dans la biologie de la conservation, fin 19e siècle, et malheureusement encore assez tardivement au 20e siècle, les premiers parcs nationaux ont été créés en évinçant les peuples autochtones, parce qu'on avait une vision de la nature dans laquelle l'homme était complètement exclu, hein, y compris les peuples qui avaient une relation privilégiée avec cette nature.
Oui, qui savaient vivre avec elle, et alors que ça pourrait être des grands sujets d'inspiration, justement cette... ce mariage entre l'homme et la nature. Est-ce que, Myriam, ça peut t'inspirer pour une... Comment ça se fabrique une pièce de théâtre, justement? Est-ce que, comme ça, on pourrait trouver des sujets qui pourraient inspirer un scénariste, un metteur en scène?
Le paradoxe, c'est que le théâtre, c'est l'art de la représentation des affaires humaines, hein, et qu'en plus, au théâtre, on est dans un espace clos, c'est à peu près l'antithèse d'un espace naturel. Donc,
il y a une
contradiction au départ. Enfin, le théâtre, c'est l'art de l'artifice, c'est l'art de la représentation des histoires humaines. Et aujourd'hui, il y a toute une configuration passionnante où en tant qu'artiste on est évidemment perméable aux questions du monde, aux questions de la société, et puis le théâtre raconte toujours des moments qui sont des moments historiques, et finalement le moment de notre époque, c'est le moment où on se pose la question de l'espace, on se pose la question notre histoire, notre moment historique, c'est le moment où on se pose peut-être plus la question.
Vous écoutez Allègre FM 93.
Rentre au théâtre, moi je crois que ça y rentre évidemment du côté de la scénographie, et d'ailleurs on voit de plus en plus de scénographies qui intègrent des éléments de la nature. Il y a un moment scénographique dans le théâtre et les arts aujourd'hui où la végétation arrive sur les scénographies de façon assez intéressante. Mais surtout, ce que je crois, c'est que puisque l'un de vous a parlé de réconcilier l'homme et la nature, c'est que au théâtre, ce que nous allons faire, c'est raconter des histoires humaines, des histoires de relations entre les humains. Et je pense que c'est ça dont on a besoin aussi dans ces nouveaux récits, c'est-à-dire de raconter comment nous, humains, on peut se mettre en lien les uns les autres dans un récit qui inclut, par exemple, la relation aux non-humains, aux autres humains, bien. Et puisque, voilà, quand même, le cœur du théâtre, c'est de raconter des histoires humaines, je pense que se pose la question de nos émotions, et en particulier de proposer des récits qui fassent aussi autre chose que d'alimenter le catastrophisme, la déploration, le sentiment d'impuissance, les affects voilà, d'affaiblissement et d'amoindrissement de nos capacités d'agir. Donc je pense que c'est là que le théâtre, le cinéma c'est encore autre chose parce que voilà, il y a l'image cinématographique, mais au théâtre en tout cas dans le temps de la représentation où on partage entre les humains assemblés au public et les humains qui sont en train de jouer, essayer sur ces thématiques dont on parlait de raconter des histoires qui augmentent notre capacité d'agir, parce que vraiment je pense qu'on a besoin de ça. On est aujourd'hui face à des forces qui nous diminuent, qui nous affaiblissent, hein, qui nous amènent vers voilà, des formes de fatalisme ou de désespoir. En tout cas, nous, dans Je me souviens de la Terre, ce qu'on a essayé, c'est de trouver l'endroit où on peut raconter une histoire qui, à la fois, prenne acte de la gravité absolue de la situation dans laquelle on est, la confiscation et la destruction, et en même temps, de proposer un récit dans lequel on voit des humains qui sont un peu comme, on le disait tout à l'heure, quand 2 millions de personnes signent... Que nous avons encore notre capacité d'agir. Alors, voilà.
Moi, j'ai un thème... je trouve très inspirant. L'autre fois, j'ai écouté Philippe Descola. Alors, c'est un autre Philippe, hein, qui nous parle de la biodiversité, dans la diversité humaine, dans ses rapports, et qui nous montre que les cultures humaines ne sont pas toutes, fabriquées sur notre modèle rationnel, qui exclut l'homme et la, donc il fait une séparation nette entre l'homme et la nature. Et je trouve qu'effectivement, une pièce de théâtre qui réussirait à raconter l'histoire de comment des peuples amazoniens vivent certains sujets, une question d'accaparement ou je ne sais trop quoi, pourrait être rigolo. Et en tout cas, on a forcément une unité de lieu, puisque tu en parlais, qui pourrait être le village. Ok, alors on me fait signe que c'est l'heure de passer la musique.
Dam-da-di-lam, vacarme, s'en va dans l'oubli éternel. Et Gustave, dom guardiam, di-li-di-di-di-di-lam, l'outesse sera d'olilam, séram. Dim-dim-da-da-da, dim-dim-da-da-da-dim, da-di-dam. Dim-dim-da-da-da-dim-dim-da-da-dim-da-di-dam. Dans la honte sera ravie, les toits à ce renoir griffera. Clair-obscur, trouble de rature, trouvera des fêtes. Clair-obscur, bordé aux peintures, trouvera sans aile. Clair-obscur, trouble de rature, trouvera des fêtes. Clair-obscur, dans des hauts peintures, trouvera sans aile. Des hauts peintures trouvera sans aile. Clair obscur, trouble de rature trouvera effet. Clair obscur, voir des hauts peintures trouvera sans aile. Que tout le clair, obscur, trouble de radure, courbe rare et fer. Clair, obscur, parmi vos peintures, trouvera sans air.
Eh bien, merci. Alors, Armand, tu nous surprends, là. C'est pas ton... D'habitude, c'est autre chose, c'est plus rythmé.
C'est pas ton genre.
Alors, c'est qui, cette magnifique musique?
Je l'avais déjà passée, c'est une musique d'un jeu. Expédition 33.
D'accord. Bon, bah écoute, on en apprend tous les jours, c'est formidable. Merci beaucoup, Armand. Alors oui, bon, bah voilà, nous voici en phase d'atterrissage, hein, donc de l'émission. On n'a plus que 2 minutes. Alors Philippe, le prochain sujet de livre, ou peut-être l'IPBS, ou la COP 17 à Erevan?
Alors, en ce qui me concerne, ça sera un autre livre, La biodiversité en 30 questions, qui va paraître à la Documentation française. Un livre un peu moins de révolte que la loi du plomb, le débat confisqué, puisque là, il s'agit simplement d'expliquer à des personnes.
Où t'étais fâché quand t'as écrit celui-là?
J'étais très fâché, oui. Bon. Ça, au bout de 5 auditions à l'Assemblée nationale, au Sénat, et de quelques dizaines d'interviews à répéter.
Oui, t'as eu l'impression qu'on t'a pas écouté, quoi.
Non, oui, ou en tout cas qu'on m'a pas entendu. Donc,
voilà. Ouais.
Et 30 questions, ça suffit.
C'est pas pareil.
30 questions, bah, si déjà on était assez nombreux à pouvoir répondre à ces 30 questions, je pense qu'on serait capable de sortir de l'ornière et de vivre mieux, de vivre plus heureux.
Et c'est pour quand alors?
Alors c'est pour le mi-mai de cette année, mi-mai 2026.
C'est vraiment un auteur prolifique. Alors Myriam.
Eh ben, pour moi, ça se passe aussi au mois de mai.
Voilà. Alors, donc, la pièce revient à Paris.
Exactement.
Après un tour à Marseille, c'est ça?
Oui, on vient de jouer à
Marseille. Je me souviens de la Terre.
Hein, souviens de la Terre, qui est à l'affiche du Théâtre de la Concorde, établissement culturel de la ville de Paris, du 22 au 30 mai, avec plusieurs représentations le soir et des représentations en après-midi également.
Facile à trouver sur le site du théâtre.
On va Place de la Concorde et on trouve le Théâtre de la Concorde. Il y a un site qui indique tout ça, les horaires, la durée du spectacle, des images, des photos, la distribution, tout ça. Voilà.
Alors vous êtes combien sur la scène?
Alors moi je n'y suis pas, mais ils sont 8. Hein. Il y a 8 acteurs, donc c'est une belle distribution avec des acteurs formidables. 4 hommes, 4 femmes.
Bon, la parité est respectée.
Absolument.
Pour une fois, on l'atteint presque, nous, mais bon, on est à chiffre impair. Donc... Bon, alors, la semaine prochaine, on poursuivra la voie de la biodiversité avec Gilles Escarguel. Alors, Gilles qui est un paléontologue. Alors là, ça, on va remonter le temps, vous imaginez pas. Donc, il vient de Lyon pour nous raconter tout ça. Il va nous raconter la 4e extinction, qui a été la pire, celle du Permien, il y a 252 millions d'années. Et ce n'est pas simplement pour le plaisir de faire le malin, un méga flashback, ce n'est pas ça qu'il cherche, parce que ça, effectivement, ce serait à Hollywood qu'il faudrait aller faire ça. Non, c'est parce que en analysant, alors il nous expliquera comment ils réussissent à comprendre ce qui s'est passé il y a 252 millions d'années, parce que là, franchement, police scientifique est complètement dépassée, quoi. C'est assez hallucinant en soi. Et donc, on va remercier tout le monde. Et à la régie Armand, et puis Renaud. À la semaine prochaine. Merci bien.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.